Il est 7h.
Les montants sont à la mesure de la crise. Il faut donc tout faire pour relancer notre économie, comme d'autres continents le font.
L'enthousiasme du commissaire européen Thierry Breton, c'était en juillet dernier. Les 27 venaient de se mettre d'accord sur le plan de relance. 10 mois plus tard, ce texte est enfin ratifié par tous les États. Nous serons à Bruxelles dès le début de ce journal. Au Rwanda, Emmanuel Macron reconnaît les responsabilités de la France dans le génocide. 27 ans après les faits, le chef de l'État solde l'héritage de François Mitterrand. Et puis, acheter de la drogue en un clic, c'est possible sur Snapchat, le nouveau réseau social des dealers. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet.
Eh bien, on va revenir sur le mea culpa d'Emmanuel Macron au Rwanda. Il dit et fait le contraire de François Mitterrand. La France a un nouvel ami, c'est un tyran.
L'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis, juste avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane. On va retrouver Stéphane dans un instant, évidemment. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marguerite Lefebvre.
Il y a eu une étape des négociations, des interminables nuits blanches à Bruxelles pour parvenir à un accord. C'était en juillet dernier. Et depuis, eh bien, il a fallu attendre 10 mois pour que chacun des 27 États ratifie l'historique plan de relance décidé par l'Union européenne. Un plan à 750 milliards d'euros. 10 mois qui ont donc semblé une éternité. Isabelle Auré, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Les derniers feux verts ont enfin été donnés.
Et oui, hier, les parlements autrichiens et polonais ont voté la mise en place du plan de relance. C'était les deux derniers. La France, elle, avait ratifié en février déjà, mais il fallait l'unanimité des 27 pour que le plan entre en vigueur. Vu la gravité de la crise, c'est vrai que 10 mois, ça a paru très très long à tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que comme ce plan est inédit par la solidarité qu'il met en place, puisque la Commission va emprunter 750 milliards d'euros au nom des 27 sur les marchés. Et donc, aux yeux des experts de l'Union européenne, 10 mois, en fait, c'est un délai qui reste raisonnable.
Alors, ce qu'on attend maintenant, Isabelle, c'est le versement de ces aides. Est-ce qu'on a une idée du calendrier ?
Concrètement, la ratification, elle permet à Bruxelles d'aller sur les marchés pour emprunter des capitaux. Et donc ça devrait se faire dans les semaines à venir. Mais en parallèle, les services de la Commission européenne sont, eux, en train d'examiner les plans nationaux déposés par chaque pays, les décortiquent pour voir s'ils correspondent bien aux priorités fixées en commun. Il s'agit avant tout d'aider les économies à devenir plus vertes et plus numériques. Et les experts de la Commission regardent aussi s'il y a bien les réformes structurelles demandées, comme celle de l'assurance chômage en France, par exemple. Une fois cet examen terminé, les premiers fonds seront versés, sans doute fin juillet. Pour la France, ça devrait être 5 milliards sur les 40 attendus au total. Le reste arrivera par tranche d'ici 2023.
Merci Isabelle Auré, en direct de Bruxelles pour Europe 1.
Au Rwanda, on savait la prise de parole historique, le genre de discours où chaque mot est pesé. Emmanuel Macron s'est exprimé solennellement 27 ans après le génocide.
La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda.
Alors, il n'y aura pas les excuses réclamées par les Rwandais, mais cette reconnaissance donc du rôle de la France, une première depuis le génocide. Jean-Rémy Baudeau, vous avez suivi ce discours du président depuis Kigali. Emmanuel Macron veut solder l'héritage de François Mitterrand.
Oui, le rôle de la France dans le génocide des Tutsis, c'est une partie sombre de l'héritage de François Mitterrand, aveuglé à l'époque selon le rapport Duclert. Hier, Emmanuel Macron s'est officiellement désolidarisé de la politique rwandaise de l'Élysée sous Mitterrand. Sans grand risque, l'opinion en 2021 est mûre pour cela et le chef de l'État bénéficie de deux avantages pour prendre ses distances. Plus jeune, il n'est pas comptable des actions politiques d'il y a 25 ou 30 ans. Il y a un aspect générationnel, confirme un ministre. Et par ailleurs, son parcours politique émancipé de la droite comme de la gauche lui offre une certaine liberté. Il n'a pas de loyauté à un parti où l'on mélangerait raison d'État et fidélité politique. Des logiques qui ont poussé certaines figures socialistes à récemment tenter de réécrire l'histoire. Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve, un malaise persistant chez les socialistes. La semaine dernière, un bureau national du PS sur le Rwanda a tourné court. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on se réjouit à demi-mot de voir la gauche empêtrée dans cet héritage Mitterrand. On espère encore un peu fragmenter et reconquérir à gauche, confie un proche du président.
Jean-Rémy Baudeau, envoyé spécial d'Europe 1 au Rwanda. Et puis toujours à l'étranger, l'Allemagne, pour la première fois, reconnaît avoir commis un génocide en Namibie pendant la colonisation. Berlin s'engage à verser plus d'1 milliard d'euros d'aide au développement.
Certains ont été détruits, mais la plupart sont toujours installés sur les autoroutes. Vous passez dessous. On reparle ce matin des fameux portiques écotaxes.
Oui, ils devaient flasher les poids lourds et leur faire payer une taxe, mais face à la bronca des bonnets rouges, la mesure avait été abandonnée. Eh bien, figurez-vous qu'elle refait surface aujourd'hui, localement. L'Alsace va faire payer les camions qui la traversent. Arthur Mbaché.
Imaginez le Rhin, d'un côté l'autoroute allemande avec taxe poids lourd, de l'autre la française gratuite, donc surchargée. C'est cette situation spécifique à l'Alsace qui explique la résurrexion version locale de l'écotaxe. La chose sera prochainement gérée par la collectivité européenne d'Alsace, dirigée par Frédéric Bierry, qui compte bien donner enfin une raison d'être à ces fameux portiques qui ne servent à rien depuis 8 ans.
Ce qui nous apparaît aujourd'hui le plus efficace, c'est effectivement que les transporteurs sont obligés de s'équiper d'un boîtier qui fait que quand ils passent sous les portiques, ils sont enregistrés et à ce moment-là, du coup, se génère derrière une taxe.
Les transporteurs qui sont représentés en Alsace par Michel Chalot, qui n'est pas ravi mais qui n'a pas, pour l'instant, sorti son bonnet rouge.
Non, pas encore, on n'en est pas là. On ne veut pas de révolution. Pour le moment, on rentre dans une phase qui est une phase de négo. Après ça, on verra. Hein. Moi, je n'ai pas dit que ça ne peut pas se traduire en colère.
La logique voudrait que le montant de la taxe soit à peu près comparable à ce qui se fait en Allemagne, une petite quarantaine d'euros pour traverser l'Alsace au volant d'un 40 tonnes. Strasbourg, Arthur Nbaché, Europe 1.
7h06 sur Europe 1, c'est l'une des applications préférées des ados et depuis quelques temps, c'est aussi un immense supermarché de la drogue. Le réseau social Snapchat est dans le collimateur des autorités.
Dans le viseur notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette appli de partage de photos et de vidéos permet discrétion et anonymat. C'est le dossier de ce journal que l'on ouvre avec le témoignage de ce dealer qui travaille sur Snapchat, sur Snap. Il a accepté de se confier à Mathieu Bock.
Dans la rue, il y a trop de keufs et tout, avec la Covid et tout. Nous, les dealers, on a pris un moyen plus sûr, plus discret, puisque sur Snap, c'est anonymat. Les messages sont effacés instantanément. Tu passes une commande via Snap, on prend une adresse, on te livre, et on se pointe là discrètement, on te file le bédo et on te file une carte fidélité. Je ne sais pas si tout le poteau est en forme, mais moi, j'ai une carte fidélité à moi. Je refile à chaque mes clients. Et là, on prend un abonnement pour 12 mois. Après, sur Snap, le client, il connaît son fournisseur. Et le fournisseur, il reconnaît son client. Donc, il n'y a pas de galère entre clients et tout. Bon, parfois, il y a aussi des galères, des faux clients et tout, qui sont de balance, des keufs infiltrés. Donc, et ça a aussi des risques.
Bonjour, Justin Morin.
Bonjour.
Alors, comment lutter contre ces nouveaux moyens de distribution? Le dealer parlait de faux profils. Est-ce qu'il y a des policiers infiltrés?
Oui, c'est ça, c'est un des outils utilisés par les policiers, mais il faut reconnaître qu'ils restent assez discrets sur leur méthode. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils me l'ont confirmé, c'est extrêmement compliqué de traquer les dealers sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Snapchat. Le réseau social n'est pas très enclin à collaborer avec l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant. Des comptes sont régulièrement fermés, mais un policier me disait que vous en fermez un, il y en a deux autres qui ouvrent. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a des nouveaux dealers, comme me l'a expliqué Christophe Niette. Il est chargé des dossiers de police judiciaire au sein du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
C'est des profils que nous connaissons. Vous avez les dealers qui sont dans des quartiers sur des points qui sont à peu près connus des forces de l'ordre. Donc 95%, c'est les mêmes qui se diversifient tout simplement et qui s'adaptent aux nouveaux modes de consommation. Le cœur du réseau reste le même, l'approvisionnement reste le même. Donc c'est de la surveillance terrain, c'est des filatures, des PV d'écoute, peut-être avec des croisements de données que nous fournissent aussi les consommateurs. Et c'est tout ce travail d'investigation qui va permettre de voir le cheminement d'un réseau de trafiquants et pouvoir le faire tomber.
On parle de Snapchat, Justin, mais qu'en est-il des autres réseaux ?
Eh bien, Facebook, Instagram, Twitter, c'est le même problème, avec le même marketing des dealers, sans oublier les applications de messagerie type WhatsApp. Là, même quand les plateformes collaborent, les enquêteurs ne peuvent pas récupérer le contenu des textes cryptés. Ils obtiennent seulement les informations de connexion, par exemple l'heure à laquelle a été envoyé le message et le lieu. Les syndicats de policiers appellent à la création de nouveaux outils législatifs pour avoir accès à ces messages.
Merci Justin Morin et merci à Mathieu Bock, c'était le dossier de la matinale.
Le divorce avait fait beaucoup de bruit il y a 6 mois entre Neymar et son équipementier Nike. On en connaît ce matin la raison, l'attaquant du PSG est accusé d'agression sexuelle par une employée de la marque et il aurait refusé de coopérer à l'enquête, on y reviendra dans le journal de 8h. Enfin un peu de musique pour terminer avec du David Bowie comme vous ne l'avez sans doute jamais entendu.
We could be heroes forever and ever.
Voilà pour la version jazz de Heroes interprétée par Matthew Tavares dans un album hommage qui sort aujourd'hui. 16 reprises en version soul and jazz, hommage un peu plus de 5 ans après la mort de l'artiste.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. En musique ce matin sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Il est 7h10 sur Europe 1. L'acteur français Jean-Pierre Darroussin est mon invité ce matin, le retour des films en salle. Il est à l'affiche du nouveau film de Lucas Bellevaux, Des Hommes, ou le difficile retour des soldats de la guerre d'Algérie, sorti mercredi prochain. Mais c'est dès ce matin, le tête-à-tête Europe Matin avec Jean-Pierre Darroussin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Et la reprise est là dans le secteur aérien avec des prévisions exceptionnelles d'Airbus.
A tout de suite sur Europe 1.
Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h11 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors c'est peut-être l'un des meilleurs signaux de la reprise post-Covid. Airbus a surpris tout le monde en dévoilant hier des perspectives étonnantes.
Oui, étonnante, d'où ce décollage d'ailleurs vertical de l'action Airbus à la Bourse de Paris, plus 10%. On peut dire que la Bourse a été surprise. Toute la chaîne industrielle de l'aéronautique d'ailleurs a suivi. Les actions de Safran, Rolls-Royce, General Electric, trois fabricants de réacteurs, ont bondi, de même que celles de Boeing. Alors Guillaume Faury, le patron d'Airbus, a délivré un message d'espoir pour toute cette filière qui traverse la crise la plus grave de son histoire. Il a annoncé qu'Airbus produirait dès 2023 davantage d'avions monocouloirs, c'est-à-dire la famille des A320, son best-seller, davantage qu'avant la pandémie.
Oui, c'est beaucoup plus tôt que prévu.
Oui, et l'autre surprise, c'est qu'Airbus prévoit même une nette croissance après, dans les années 2024-2025. Alors, avant la pandémie, Airbus produisait 60 monocouloirs par mois. Après le Covid, le trafic aérien avait chuté, la production avec, moins 40%, et Airbus avait engagé la suppression de 15 000 postes sur 135 000. Désormais, l'avionneur prévoit de revenir au-dessus de ce fameux rythme de 60 monocouloirs par mois dès le printemps 2023. C'est un peu ce qu'on appelle une reprise en V, hein, un très fort redémarrage après une très forte baisse. Airbus a d'ailleurs demandé à ses fournisseurs de se tenir prêts pour une forte accélération de la production.
L'aéronautique est pourtant l'un des secteurs industriels qui a le plus souffert de la pandémie.
Oui, et bien ce qu'on observe aussi dans d'autres secteurs de l'industrie, c'est en fait un retour plus rapide à la normale. On le voit d'ailleurs dans les indications de morale des chefs d'entreprise. Si Airbus prévoit d'augmenter sa production, c'est tout simplement parce qu'il reçoit des signaux positifs des compagnies aériennes. Il y a peut-être eu un excès de pessimisme lorsque le trafic aérien s'est pratiquement arrêté au niveau mondial. Alors certes, l'industrie aéronautique aurait tort d'imaginer que tout va redevenir comme avant. La pression de l'opinion, par exemple, pour réduire des émissions de CO2 est plus forte que jamais. Les avionneurs vont devoir redoubler d'efforts technologiques. Mais ce que montre cette reprise, c'est aussi que malgré les nouvelles contraintes sanitaires, le désir de voyager est intact et même peut-être encore plus puissant qu'avant.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h14 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Emmanuel Macron a reconnu hier à Kigali, devant le président Kagame, les responsabilités françaises dans le génocide de 1994.
Alors c'est une grande illusion d'imaginer que les dirigeants français et rwandais se réconcilient en parlant du génocide, en cherchant la vérité. Il y a deux histoires officielles. Celle du Rwanda sert à légitimer le régime en place. Elle est enseignée tout le temps, partout, c'est vital, c'est prudent. Les vainqueurs d'une guerre civile infligent toujours ce bourrage de crâne aux vaincus et aux survivants. Les manuels scolaires sous Franco, sous Tito, sous Castro sont 100% politiques. L'histoire officielle en France a une autre fonction. Elle permet au président de prendre de l'altitude. Les conseillers qui rédigent ses discours le hissent à la hauteur des héros. Il tutoie l'histoire, il édifie ses partisans. Il fait de la morale. À Kigali hier, Emmanuel Macron battait sa coulpe et Paul Kagame combattait encore et toujours.
Sur l'Afrique, le discours historique, c'est celui de François Mitterrand à la Baule.
Oui, et c'est l'opposé de celui d'hier. En 1991, la guerre froide est finie, François Mitterrand enterre la France-Afrique, les potentats africains sont sommés de s'adapter, il exige le pluralisme, l'état de droit, et désormais la coopération sera conditionnée par la démocratisation. En réalité, il y a 10 ans de chaos qui commence, mais à l'époque, on veut y croire. Quand le président rwandais appelle à l'aide, on passe à l'acte. La France aide Habyarimana en échange d'une démocratisation. Elle envoie des paras pour stopper une guérilla venue de l'étranger et des diplomates pour imposer le partage négocié du pouvoir. C'est par vanité qu'elle s'implique dans ce confetti francophone où elle n'a aucune responsabilité coloniale, aucun intérêt vital et sans mesurer dans quel guépier elle se fourre. On sait comment ça a tourné, mal. et même pire que ça.
Mais pourquoi le discours d'hier est-il contraire à celui de la Baule ?
Et parce qu'Emmanuel Macron ne demande rien à Paul Kagame et surtout pas une démocratisation. Il se tient, Emmanuel Macron, avec humilité et respect à ses côtés. Il est comme hypnotisé par le tyrannosaure qui se fait réélire depuis un quart de siècle avec des scores dignes de Staline, 99% la dernière fois, dont les opposants sont persécutés quand ils ne sont pas assassinés. Kagame est un monstre froid, efficace et couvert de sang. Le monde entier s'en est aperçu, notamment les Anglo-Saxons. La France sera la dernière à le soutenir, comme elle a été la dernière à soutenir Habyarimana. Leur vanité piège les présidents français au Rwanda.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est 7h16 sur Europe 1 et dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin et notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h19 sur Europe 1. Nous retrouvons Virginie Fulpin et son édito sport. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Roland Garros débute dimanche. Et avant le début du tournoi, la japonaise Naomi Osaka a jeté un froid. Vous pourrez voir la numéro 2 mondiale jouer, bien sûr, mais vous n'entendrez pas le son de sa voix. Elle va boycotter toutes les conférences de presse du tournoi pour préserver sa santé mentale. C'est ce qu'elle dit. Pour vous, Naomi Osaka se trompe de combat.
Mais la décision de Naomi Osaka interroge sur les rapports des sportifs avec l'information, avec le public et avec leur métier, finalement. La japonaise dit que souvent, on lui pose des questions déjà maintes fois entendues ou des questions qui la font douter et qu'elle n'est pas là pour répondre à des personnes qui doutent d'elle. Alors la première chose, c'est que les journalistes ne sont ni des supporters, ni des coachs mentaux. Ils ne sont pas là pour flatter l'ego des joueurs, ni pour les mettre à terre. D'ailleurs, leur rôle, c'est de poser des questions pour informer le public. Oui, parfois, il y a des questions qui peuvent déranger. Et comme en tennis, c'est obligatoire pour les joueurs de se présenter devant la presse, je comprends que ce ne soit pas tous les jours une partie de plaisir, mais c'est leur boulot. Et jusque-là, Naomi Osaka ne s'est jamais plainte. Elle a répondu avec entrain quand elle a gagné ses titres du Grand Chelem à l'US Open et à l'Open d'Australie. Il se trouve qu'elle est moins à l'aise à Roland-Garros où elle n'a jamais dépassé le troisième tour. Et comme par hasard, c'est ici qu'elle se bloque. Elle n'a peut-être pas envie de répondre encore aux questions sur son aversion pour la terre battue. Pourtant, c'est ça qui est intéressant aussi. La carrière d'un sportif n'est pas toujours aussi lisse et flatteuse que les images qu'ils choisissent eux-mêmes de publier sur Instagram,
oui,
par exemple.
Vous avez raison qu'ils choisissent eux-mêmes de publier sur Instagram, autre canal de communication. Naomi Osaka qui boycotte la presse, vous dites que c'est préjudiciable au tennis ?
On est à un moment où on se demande comment faire revenir le public vers le tennis, comment intéresser les nouvelles générations, est-ce qu'il faut changer le format des matchs, etc. Et là, Naomi Osaka se tire une balle dans le pied. Ça devient déjà difficile de voir des matchs de tennis. Il faut de plus en plus d'abonnements à des chaînes payées. Alors si en plus on ne peut plus entendre les joueurs, il ne faudra pas se demander longtemps pourquoi le public s'éloigne. Le circuit féminin manque aussi d'attrait parce qu'il cherche une patronne charismatique pour la presse Serena Williams. Et on pensait l'avoir trouvée avec la japonaise brillante sur le court et dotée d'une forte personnalité en dehors. Elle est en première ligne de tous les combats contre le racisme, les violences policières, le sexisme. Et quand elle s'engage, elle est bien contente de pouvoir en parler dans la presse. C'est comme ça que Naomi Osaka est devenue une icône mondiale. Donc là, en gardant le silence à Roland-Garros, ce n'est pas les journalistes qu'elle va punir. C'est le public, le tennis en général et elle-même. Allez, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis.
Et Virginie Fulpin qui dit ça, c'est une femme qui aime le tennis. On peut le dire.
Ah oui, je crois qu'on peut le dire comme ça.
Je suis un peu
comme une
pile électrique. Parce que lundi matin, on sera au bord du central. Vous savez qu'il y a un magnifique studio Europe 1 qui est installé, puisqu'on est radio officielle de Roland-Garros. Il est installé dans les allées de Roland-Garros. Mais là, nous, lundi matin, à 7h, on sera en direct du central. Et je vous vois sourire à travers votre masque.
Je vais vous défier.
Oh là, oui, non, il n'y a pas. Oui, je suis ramasseur de balles, moi. Pas plus. 7h22 sur Europe 1. On retrouve Stéphane Bern et son mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'été n'a jamais été aussi proche, selon Laurent Cabrol et son expertise météorologique. Il sera très certainement chaud, autant dans les t-shirts que dans les maillots. L'expression du jour sera donc le French kiss.
Le French kiss, je crois qu'on voit tout ce que c'est hein, autour de la table. Bon, j'imagine que l'expression est plutôt récente pour une fois, rien à voir avec le Moyen-Âge.
Alors, 2014, c'est en tout cas l'arrivée du French kiss dans le Petit Robert. On peut y lire « embrasser avec la langue, galocher ». Sachez d'ailleurs qu'une galoche est une chaussure à dessus de cuir et semelle de bois qui se porte par-dessus des chaussons. Le galochier était le vendeur de chaussures et galocher, c'est faire du bruit en marchant avec. C'est vrai que certaines embrassades sont plus bruyantes que d'autres. Voilà d'où vient la galoche. Mais revenons plutôt à notre French kiss. Les Américains sont persuadés que la pratique est une invention française. Au 18e ou 19e siècle, la mobilité transatlantique se développe. Et notre réputation aussi. Il faut dire que les Yankees, qui font le voyage en France sont non seulement plutôt aisés, cela favorise les rapprochements, mais qu'en plus, ils ont longtemps évolué dans une religion puritaine, et c'est vrai qu'ils ne se prêtent pas à toutes ces bamboches. Pour eux, embrasser signifiait épouser. En revenant de chez nous, ils disaient « Quand vous êtes en France, faites-vous embrasser par les femmes ». Cela a même donné naissance à l'expression « get a French kiss ». En Angleterre, « French kiss » est même un verbe. On peut dire « I French kiss her ». Mais restons modestes. En fait, le baiser fougueux ne nous appartient pas. Il est déjà décrit dans le Kama Sutra, et 500 ans avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, prenant possession de l'Inde, le ramène en Méditerranée. Et ce sont vraiment les Romains qui ont lancé la mode du French kiss en Afrique et en Asie. Mais chut, continuons de penser que c'est nous les Français qui l'avons inventé, pour une fois qu'on dit du bien de nous.
Oui, c'est comme les French fries. Finalement, oui, c'est pas exactement. Vraiment de nous, mais ce sera French. Oui. 16h-18h, oui. Historiquement vôtre.
Alors, on réunit le peintre Gustav Klimt, le photographe Robert Doisneau et une pop star de Turquie dans les années 90 qui faisait des bisous, Kiss Kiss, Tarkan. Leur point commun, il a fait un baiser et un seul.
Eh bien, à tout à l'heure, 16h, historiquement vôtre, Mathieu Noël et Stéphane Bern tous les jours sur Europe 1. Il est 7h25, dans un instant la météo, Laurent Cabrol et un nouveau journal avec Lénaïque Meunier. Europe 1. Il est 7h28 sur Europe 1 et nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Oui, une météo qui en ce moment est un peu comme un baiser volé. Elle est surprenante, elle est douce et parfois électrique. Électrique demain, elle le sera. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de savourer cette journée de vendredi. Demain samedi, ce sera quand même un temps beaucoup plus orageux, surtout sur les régions du sud. Un petit peu moins ensoleillé, mais ça ne veut pas dire que le beau temps est remis en cause. Pas du tout. Hein. Nous sommes dans une période estivale, il est tout à fait normal qu'il y ait comme ça une journée un peu folle. Et puis ensuite, le temps devient beaucoup plus calme pour le dimanche. J'ai fait la fête des mères et puis la semaine prochaine sera également très agréable. Alors aujourd'hui un voile tout à fait logique puisque vous le savez, lorsqu'il a beaucoup plu et là il a plu pendant un mois, eh bien il faut évaporer l'atmosphère, l'humidité qui est accumulée dans le sol. Et donc nous avons un voile qui se profile à l'horizon pour aujourd'hui sur la plupart des régions de France, mais un voile inoffensif. Il fera 19 degrés à Lille, 20 à Metz, 21 à Nice, 22 à Paris, 23 à Marseille, 25 à Lyon, nous atteindrons 27 à Toulouse et Bordeaux, 28 à Avignon et 29 degrés dans les Landes. Voilà pour des températures estivales, bien sûr.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Les panneaux vont donner à chaque rangée de vignes 4 ou 5 heures d'ombre par jour. Il y a déjà 25% d'évaporation en moindre. C'est énorme.
Des panneaux solaires au-dessus des champs. Les agriculteurs cherchent des solutions pour consommer moins d'eau. Reportage dans les Pyrénées-Orientales. La justice italienne condamnée par la Cour des droits de l'homme des magistrats avait décrédibilisé une plaignante dans une affaire de viol au prétexte de sa bisexualité. Et puis la formation des chiens renifleurs de Covid est enfin terminée. Nous serons à l'aéroport de Marseille pour voir comment travaillent ces traqueurs de virus.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. L'acteur Jean-Pierre Darroussin, invité du Tête-à-Tête Europe Matin. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Regardez son passé sans déni, mais sans repentance. C'est la marque de démocratie et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron pour la France hier à propos du Rwanda.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, je reçois le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est notre denrée la plus précieuse et parfois pour certains corps de métier, il n'est pas évident de l'économiser. Le ministère de l'Agriculture lance un Varenne de l'eau aujourd'hui pour aider les agriculteurs à faire face aux épisodes de sécheresse qui affectent leur culture sans pour autant trop irriguer. Alors il existe déjà des solutions. Benjamin Peter est parti à la rencontre d'un viticulteur dans les Pyrénées-Orientales qui a su changer la façon de cultiver ses vignes.
Il y a 40 ans, quand nous parlions de 30 ou 32 degrés, c'était des températures assez exceptionnelles. Et à l'heure actuelle, on est plutôt sur des 38-40.
La conséquence de ce changement climatique pour Pierre Escudier, c'est un degré d'alcool plus élevé du raisin et un rendement en baisse. Alors depuis 4 ans, ce viticulteur a fait installer au-dessus de 5 hectares de ses vignes des panneaux solaires qui produisent de l'électricité verte mais pivotent plusieurs fois dans la journée pour agir comme des parasols.
Les panneaux vont donner à chaque rangée de vignes 4 ou 5 heures d'ombre par jour. ça suffit à la vigne pour se relaxer et ne pas souffrir. L'eau est devenue une denrée très rare et très chère. Sous les panneaux, il y a déjà 25% d'évaporation en moindre. C'est énorme.
C'est Antoine Nogier, le fondateur de la société Sonagri, qui a eu cette idée, économiser l'eau grâce à l'ombre des panneaux solaires.
C'est comme une persienne, si vous voulez. C'est vraiment un pilotage intelligent pour laisser passer le soleil quand la plante a besoin de soleil. Et quand vous avez trop de soleil, cette persienne se ferme uniquement quand la plante se met à souffrir ou ne fait plus de photosynthèse.
Et c'est vertueux, puisque ces panneaux solaires ne remplacent pas de terres agricoles, mais sont au service de l'agriculteur. 10 centrales de ce type existent déjà, une trentaine sont en projet sur des vignes, des vergers ou des espaces maraîchers. À Tresserre, Benjamin Péter, Europe 1.
Un chiffre tout de même, un peu moins de 5% de la surface agricole française est irriguée. C'est moins que la moyenne européenne qui est à 5,9%.
C'est un signal fort envoyé aux magistrats. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner l'Italie pour préjugés sexistes dans un jugement pour viol.
La plaignante, une trentenaire, a considéré que lors du procès, sa bisexualité et ses relations sexuelles et sentimentales de l'époque avaient poussé les juges à mettre en cause sa crédibilité. Les explications de Marion Dubreuil.
Ce n'est pas la décision de la justice italienne que la Cour européenne remet en cause, mais les arguments écrits de la Cour d'appel de Florence. Pour acquitter les accusés d'agression sexuelle, les juges florentins ont multiplié les préjugés et les commentaires sur la vie sexuelle de la plaignante, une étudiante des Beaux-Arts, sa bisexualité, son attitude soi-disant ambivalente vis-à-vis du sexe, extrapolée de son rôle de prostituée dans un court-métrage, ou bien encore sa lingerie rouge qu'elle aurait exhibée le soir des faits, des propos culpabilisants, moralisateurs, qui véhicule les préjugés sur le rôle de la femme qui existe dans la société italienne, estime la Cour européenne. Or, les magistrats ont une responsabilité dans la lutte contre la violence fondée sur le genre, dans la lutte contre les inégalités entre les sexes. En clair, les autorités italiennes n'ont pas suffisamment protégé la plaignante. Plus grave, ils lui ont fait vivre une deuxième expérience de victime.
Et Rome devra verser 12 000 euros à la requérante pour dommages moraux. En France, les élèves de terminale ont commencé à recevoir les réponses à leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. Cette année, ce sont les filières de santé qui ont la cote. La formation en soins infirmiers est la plus demandée.
De futurs bras pour piquer, puisque vous le savez, oui, c'est futurs infirmiers. Vous le savez, dès lundi, si vous êtes majeur, vous pouvez vous faire vacciner.
Oui, les créneaux sont déjà ouverts pour anticiper évidemment les prises de rendez-vous. Le rythme est soutenu avec désormais 24 millions de Français qui ont reçu au moins une dose. Mais en attendant, la traque au virus se poursuit, en particulier dans les aéroports, à l'arrivée des passagers étrangers notamment. Nous partons ce matin à Marseille avec une brigade anti-Covid, un poil spécial, celle des chiens renifleurs, qu'a suivi Stéphane Frangy.
Une présence inhabituelle dans la file d'attente de la police aux frontières, un berger hollandais, Inslag, au pied de son maître. Pour les marins-pompiers, il s'agit d'abord de rassurer les passagers qui sont intrigués.
Juste votre attention, n'ayez pas peur, il va vous renifler un petit peu. Vous inquiétez pas, ils cherchent des gens qui seraient contaminés au Covid, et uniquement ça.
Puis Inslag, au passage de chacun, renifle les mains, les chaussures ou encore les bagages, sous l'œil du premier maître Stéphane, attentif à la moindre réaction.
Alors, elle ferait certainement un petit aboiement de ce genre-là, si elle venait à détecter le Covid sur une personne. Donc il faut que j'interprète un petit peu, voir les changements de comportement du chien.
L'utilisation de ces chiens vise à la fois à renforcer et à simplifier aussi à terme les dispositifs de contrôle déjà présents auprès des passagers, selon le premier maître des marins-pompiers, Eric.
On peut tout à fait avoir un test négatif 48 heures avant et être positif le lendemain. L'avantage du chien, c'est la rapidité d'exécution, c'est-à-dire qu'il va pouvoir remonter une file de 40 personnes en 3 minutes.
Et le taux de sensibilité de ces chiens à la détection du Covid serait de 92% selon les marins-pompiers. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Marseille où la vaccination est ouverte dès aujourd'hui à tous, pas besoin d'attendre lundi.
Et puis on vous a parlé aux États-Unis de ces loteries organisées pour inciter à la vaccination. Eh bien, un premier gros lot est tombé.
Oui, l'Ohio compte une nouvelle millionnaire, Abigail, à qui cette somme n'est pas du tout montée à la tête. Écoutez ce qu'elle veut acheter.
I did come up to Cleveland from Cincinnati to look at a used car.
Une simple voiture. Et même pas une neuve.
Une voiture d'occasion.
Une voiture d'occasion.
Ouais,
elle n'est pas gourmande. Hein. Il y a un autre vainqueur de cette loterie, c'est Joseph Costello. Lui, on va lui payer tous ses frais universitaires, sachant que la fac aux États-Unis, c'est au bas mot entre 40 et 50 000 euros par an.
Oui, c'est pas rien comme cadeau, j'allais dire, comme prix. Voilà.
Non, c'est un beau lot.
Pour ces trophées de la vaccination, si j'ose dire. Merci beaucoup, Lénaïque Monnier. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est l'invité de la matinale ce matin. Jauge dans les établissements scolaires, préparation de la rentrée, puis des examens. L'Euro de foot qui arrive aussi. Je vous rappelle que c'est le ministre des Sports. À 8h15, il répondra à mes questions sur Europe 1. Jean-Michel Blanquer dans ce studio. Dans un tout petit instant, l'acteur Jean-Pierre Darroussin, mon invité, le tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, vous l'attendez, il est là, la touche âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Cinéma toujours, les films français font un tabac, mais je ne parle pas du nombre d'entrées.
À tout de suite sur Europe 1. C'est moi, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, vous avez sûrement entendu parler des résultats de cette étude menée sur 150 films français par la Ligue contre le cancer. Le tabac est présent dans 90% des œuvres, c'est énorme. Loin de vouloir interdire les clopes dans les films, la Ligue dénonce surtout cette surexposition, leur valorisation et s'inquiète de l'influence que le cinéma peut avoir sur les jeunes en leur inculquant l'idée que fumer est sexy. La Ligue contre le cancer propose, comme c'est déjà le cas pour les scènes violentes, que les scènes de tabagisme soient signalées. Avertissement, le film que vous allez regarder comporte des scènes dans lesquelles les personnages claquent 10 balles par paquet pour se flinguer la santé et avoir une haleine de bac à compost. Bonne séance. Non mais ceci dit, c'est vrai que cette omniprésence du tabac joue sur le comportement du téléspectateur. L'autre jour, je regardais la série Baron Noir, et à chaque réplique d'Anna Mouglalis...
Vous êtes au point là sur les séries.
Oui, petit retard. Et à chaque réplique d'Anna Mouglalis, j'avais envie de me griller une cartouche de gitane de maïs. D'ailleurs, j'ai pas lu toute l'enquête, mais je me demande dans quelle mesure faire jouer Anna Mouglalis n'est pas considéré comme un placement de produit pour le lobby du tabac. Mais subliminal, parce que même sans clope à la main, quand elle joue, on pense direct au tabac. Cette élection présidentielle, je vais la gagner, coûte que de... Bref, toujours est-il que le cinéma peut effectivement influencer certaines personnes. Je vous propose de découvrir un témoignage fort, celui de Gaëtan. C'est le portrait de la semaine. Gaëtan est ce qu'on appelle un hyper-influençable. Fan de films de super-héros, c'est slip sur le pantalon que le jeune homme nous accueille à Berg. Installé dans le nord de la France depuis le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, il nous raconte aujourd'hui son calvaire. Bonjour Biloute. Ouais, bah à cause du cinéma, je cumule les dépendances. Alcool, tabac, antidépresseurs aussi. Ça, c'est depuis que j'ai vu le dernier des Frères Dardenne. Ils n'en remontent pas à l'image, hein, mais sans Xanax, c'est dur de tenir le coup après le film. Sinon, j'ai lancé une procédure pour adopter Jonathan Cohen, François Civil et Cadmérade. Je les vois tellement à l'écran que je pense qu'ils font partie de ma famille. Il n'y a pas un film dans lequel ils n'apparaissent pas, sauf mon film de mariage, d'où la procédure d'adoption. Puis j'ai plus de permis, quoi. Je me suis fait choper à 210 sur le périph avec Maquilla. C'était à la sortie de Taxi 4. Aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Pardon, mais votre façon de parler, ça sonne un peu faux. Oui, ça, c'est à force de regarder des comédies françaises. Ça m'a influencé. Je joue mal dans la vraie vie maintenant. Et je vais voter RN aux prochaines élections. Excusez-moi, mais quel est le rapport? Quel film vous a influencé pour ça? Non, ça, c'est pas un film. C'est parce que je regarde trop les chaînes info. Ils reçoivent le RN tous les jours et ils ont l'air super sympas. Un témoignage fort. Merci, Gaëtan.
La touche âme, c'est tous les matins à 7h40. Et c'est sur Europe 1. Merci beaucoup, Bertrand Chameroy. J'allais dire à demain, non, à lundi.
Mais on peut se voir demain, bien si sûr, ça vous fait plaisir.
Vous faites quoi, vous? On en reparle après.
On en reparle après.
Et sinon, à 10h, Philippe Vandel, Culture Média, évidemment. Il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Depardieu, Catherine Fro à l'affiche du nouveau film de Lucas Bellevaux qui sort mercredi prochain. Des hommes, la guerre d'Algérie, les conscrits, ce qu'ils ont vécu d'horreur sur place et ce qu'ils ont vécu d'isolement à leur retour. À l'heure où la France s'interroge sur son histoire, mais aussi à l'heure plus légère, où les salles de cinéma rouvrent enfin leurs portes, Jean-Pierre Darroussin est mon invité ce matin.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Jean-Pierre Darroussin.
Bonjour.
Alors d'abord, c'est la quatrième date de sortie de ce film. Vous devez être content de le voir arriver en salle.
Il me semble, oui. Même si on a perdu un petit peu la notion du temps ces dernières semaines, ces derniers mois. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans cette année 2020, mais enfin, c'est sûr que le film devait avoir une autre existence que celui-là, que celle qui lui est proposée maintenant. Et parfois, c'est très très bien aussi d'attendre longtemps.
Écoutez, on va voir comment ce film a pu maturer avant sa sortie, puisqu'en réalité, c'est un film d'histoire et d'actualité. Des hommes dont vous êtes à l'affiche, ce film de Lucas Bellevaux. La France et son passé. C'est compliqué, le passé.
Enfin, en tous les cas, c'est compliqué pour ces soldats, pour ces... qu'on n'a pas écoutés, qu'on... On n'avait pas envie, au moment où le pays était en train de découvrir sa jeunesse, au moment où le pays était en train d'essayer de conquérir de la modernité, on n'avait pas envie d'écouter ces types qui avaient vécu l'horreur, qui avaient vécu des choses atroces. Il a été décidé aux accords d'Évian qu'il n'y aurait pas de procès pour crime de guerre ou choses comme ça, qu'on essaierait d'oublier tout ça. Mais quand il n'y a pas de coupable, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'innocents. Et du coup, tout le monde s'est senti en faute. Et ça a créé du ressentiment. Et on sait bien que le ressentiment, c'est quelque chose qui finit par détruire les tissus sociaux, les tissus, les rapports familiaux, tout ça. Ouais.
La France se pose ces questions en ce moment, pas que sur l'Algérie, mais le regard qu'elle porte sur son histoire, la colonisation, d'autres faits historiques, cette espèce de travail d'introspection, et il arrive peut-être un peu tard, mais il est salutaire.
Moi, j'ai toujours, c'est comme ça que j'explique des fois à mes enfants à quoi ça sert l'histoire. Je dis, mais si d'un seul coup on ne sait plus où on doit aller, si on a les yeux bandés et que vous êtes dans un endroit et qu'il va falloir vous évader et retrouver votre chemin, il va falloir reconstituer par où vous êtes passé dans votre tête pour comprendre pourquoi vous êtes là, comment vous êtes là. C'est ça l'histoire. C'est arriver à se constituer son propre film. De ce que c'était la vie à une époque.
Je voulais vous demander, Jean-Pierre Darroussin, si ce n'est pas aussi un film sur la solitude. Plusieurs personnages qu'on retrouve seuls, isolés, avec eux-mêmes, avec leurs pensées.
La solitude, elle vient aussi du fait de n'avoir pas parlé, de se sentir rejeté par une société. Si on sait qu'on ne va pas être jugé et écouté au bon endroit, si les étiquettes qu'on peut vous mettre sur ce que vous êtes sont les étiquettes qui vous enferment, vous emprisonnent, eh ben petit à petit, on reste assis au milieu de sa cellule personnelle, quoi. Voilà.
C'est toujours compliqué en plus de comprendre les gens en tant qu'individus. On peut parler des soldats de la guerre d'Algérie, mais les gens individuellement, ils ont chacun leur faille et leur fêlure.
Oui, il y a certainement des types qui ont peut-être même pris du plaisir. Il y a dans la possibilité de faire du mal à quelqu'un, il y en a qui trouvent ça bien, il y en a ça les amuse de faire du mal. Et oui, il y a tout, mais là, on s'occupe des gens qui ont une humanité, on va dire, à peu près normale. D'être dans la destruction des autres, c'est quelque chose qui les détruit eux-mêmes.
Jean-Pierre Darroussin, tout autre chose, après une blague en donnant le nom de Polanski au César, vous avez été agressé en pleine rue et vous en avez parlé, vous l'avez raconté à Pascal Clark sur Europe 1. Ouais. Je ne reviens pas sur cette affaire à nouveau, mais simplement, quand on vous écoute à ce sujet, on a le sentiment que c'est devenu délicat d'être léger, amusé. Est-ce qu'on a encore le droit à la clownerie ?
On est entré dans un moment où la méfiance a pris le pas sur la confiance. Vous voyez, je suis arrivé ici dans vos studios pour faire un enregistrement, j'ai été contrôlé, on m'a vidé mes poches, on a regardé tout un tas de trucs, j'ai passé des tas de contrôles, tout le monde a un badge pour pouvoir rentrer dans les portes, tout ça. Moi, j'ai connu une époque où c'était pas le cas. La peur a fini par envahir le monde. À partir de là, chaque parole devient quelque chose de très lourd. Et puis bon, il faut bien reconnaître que le développement des... Ce « moi, je pense » qui existe, qui se distribue à longueur de temps sur les réseaux Internet, donc cette envie de monter tout le temps sur ses grands chevaux, de réagir, de trouver scandaleux ceci, scandaleux cela. On est dans un monde qui a perdu beaucoup de légèreté, c'est vrai, certainement.
Je voulais aussi vous parler du Bureau des légendes, évidemment, Jean-Pierre Darroussin. Tiens, d'ailleurs, vous n'en avez pas marre qu'on vous parle toujours de cette série qui raconte, je le rappelle, la DGSE, l'espionnage français.
Mais pas du tout, ça me plaît, à chaque fois ça me passionne.
Non mais ça fait partie des choses qui resteront de votre carrière, vous le savez, vous êtes fier de ce rôle.
Oui, j'ai découvert d'abord un univers que je ne connaissais pas, très très intéressant, et il se trouve qu'il y a eu un espèce de succès international.
Oui, je voyais que vous étiez amusé ou étonné d'être reconnu, interpellé en Suède.
Oui, parce que bon, c'est un pays où je vais souvent, donc j'étais avant tranquille, mais comme le Bureau des légendes a eu beaucoup de succès là-bas, je m'en suis aperçu que ça avait eu du succès là-bas, oui.
Alors, il y a un exercice de langue de bois que vous maîtrisez tous, les créateurs de la série, Mathieu Kassovitz, vous-même, dès qu'on parle d'une suite du Bureau des légendes, si on comprend bien, vous êtes toujours évasif, ce sera plus l'idée d'un spin-off, c'est ça ?
Alors, franchement... mais je ne suis tenu au courant de rien du tout.
J'essaie de regarder dans les yeux pour voir s'il bluffe ou pas. Mais...
Non, je ne sais pas du tout.
Mais en tout cas, si on vous appelle, vous re-signez.
Oui, bien sûr. Oui. Vous savez, c'est en plus ça, mon personnage, ça commence à se savoir.
Ouais,
il est un petit peu décédé à un moment donné. Donc, c'était un choc quand sur plusieurs années, vous vivez avec un personnage. Quand d'un seul coup, on se dit, au fait, il est mort dans cette saison-là, il va mourir. Ah, il y a un petit deuil à faire. Donc, si on m'appelle, ça veut dire qu'il va falloir le faire revivre, ce personnage. C'est toujours agréable de vaincre un peu la mort.
Des Hommes, de Lucas Bellevaux, avec Gérard Depardieu, Catherine Fraud et vous, Jean-Pierre Darroussin. On retrouve le cinéma français dans les salles. Merci beaucoup.
Ben de rien, c'est moi.
Et à bientôt.
Au revoir.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h49, dans un tout petit instant sur Europe 1, l'édito politique Nicolas Bétou. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, son édito politique. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
En me tenant avec humilité et respect à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités. Pour vous, cette phrase prononcée hier au Rwanda par Emmanuel Macron, cette phrase est historique.
Oui, au sens où elle marque un tournant de l'histoire. Cela fait de nombreuses années que la pression montait sur la France pour qu'elle reconnaisse sa part de responsabilité. Certains disent sa culpabilité dans cette effroyable tragédie qui fit plus de 800 000 morts, hommes, femmes et enfants. Or, cette reconnaissance n'allait absolument pas de soi. Elle mettait en cause trop de gens, trop de personnalités, trop d'institutions. Pour y parvenir, ce fut donc un long cheminement.
Oui, il y a eu de nombreux rapports et enquêtes jusqu'à, il y a quelques semaines, la publication du rapport Duclerc sur la responsabilité de la France dans ce génocide.
En fait, le plus difficile dans cette histoire aura été de dire les choses, de dire les faits et, si possible, bien sûr, la vérité. Depuis 27 ans que cette affaire colle au basque de l'armée française et entache la réputation de quelques personnages politiques, dont François Mitterrand, un mur de silence s'était érigé contre lequel venaient buter les accusations de complicité de la France et de son armée dans le génocide. Et il n'y avait eu jusque-là que des dénégations.
Et c'est cela qu'Emmanuel Macron a tranché.
Oui, en disant que la France était effectivement restée aux côtés d'un régime génocidaire. C'est ça la responsabilité de la France, n'avoir pas vu, avoir laissé faire dans un engrenage qui a abouti au pire. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, l'avait dit il y a quelques semaines à sa manière, ce fut un acte de lâcheté internationale. Dans cette tragédie, la responsabilité de la France, c'est celle de l'inaction, pas celle de l'action.
Et donc le chef de l'État n'a pas présenté les excuses du pays.
Non, il a en revanche espéré le pardon des victimes. En réalité, ce qu'a fait le président de la République était très difficile. Il devait trouver les bons mots pour admettre une responsabilité sans être accusé de complicité et encore moins de culpabilité dans le génocide. Emmanuel Macron a une formule pour décrire cette voie de passage si étroite, ni déni, ni repentance, mais une reconnaissance. On ne ferme pas les yeux, mais on ne s'excuse pas, on n'efface pas le passé, mais on le reconnaît, on le regarde en face. Ce travail de mémoire, c'est la marque des grandes démocraties, des dictatures. Elles réécrivent souvent leur passé. C'est ce qu'Emmanuel Macron a réussi à établir sur le dossier rwandais. Et les autorités du pays ont salué cette démarche. C'est ce qu'il a aussi entamé sur la guerre d'Algérie. Mais cette fois, la volonté de Paris de regarder l'histoire se heurte encore à l'intransigeance des Algériens. C'est le problème avec eux. Or, en diplomatie, pour apaiser un conflit et refermer une blessure, il faut être deux.
Votre édito politique, c'est tous les matins. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Il est 7h55. Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, je reçois Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Et c'est Bruno Le Maire qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, Monsieur Cabrol.
Monsieur le ministre.
Et bonjour à Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel, je sais qu'il m'écoute. J'ai vu que tu avais promis 700 millions d'euros au prof. Hein ? Mais on est sûr de ça ? Parce que moi, sur mes tablettes, j'ai pas ça à l'heure actuelle. Je viens de balancer, ne l'oublie pas, 15 milliards aux entreprises. On est à 118% de dette, 9% de déficit. Hein ? Franchement, est-ce que tu es sûr que c'est le moment de filer 700 millions à des fonctionnaires hein, qui ont 3 mois de vacances par an hein ? Ou alors, si tu veux vraiment avoir des sous, tu fais travailler les gosses à l'école, je sais pas, moi, Il travaille déjà, ok, mais de changer les programmes en maternelle, au lieu de dessiner des princesses et coller des gommettes, putain, mais fais-leur fabriquer des masques, par exemple. Pendant les cours de chimie au collège, ils pourraient chercher des vaccins, enfin, orienter les choses, quoi, voilà. Hein, on est en... De toute façon, les gosses, ils sont endettés sur 20 générations avec le Covid, donc c'est peut-être le moment qu'ils se bougent le cul, non ? Franchement. On est compte de la chance que vous avez, monsieur Billard, vous n'avez pas d'enfant, vous.
Je ne répondrai pas à Bruno Le Maire, on verra ce qu'en dit Jean-Michel Blanquer. 700 millions, tiens, justement, on va en parler, bien sûr. On va parler surtout de protocole sanitaire. Et j'ai quelques questions à lui poser sur la rentrée. On est quand même à la fin du mois de mai, il va falloir commencer à se préparer, anticiper le mois de septembre. Le ministre de l'Éducation nationale à 8h15, juste après le journal de 8h, sur Europe 1. Et Nicolas Cantelot, on vous retrouve à 8h40. 45 bien sûr, pour la revue de presque. Très bon réveil à tous. 7h59, Florent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et notre ciel est pudique, il jette un voile sur les ardeurs du soleil. Il y aura ce voile en permanence, nous l'aurons tout au long de la journée sur de nombreuses régions. Il sera à peine léger, hein, sur le Poitou, le Limousin, le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon. Il sera plus épais sur l'Aquitaine, les Charentes, la Basse-Normandie et la Bretagne. Et puis il sera pas du tout présent, ou très peu, sur la Vallée de la Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté et Rhône-Alpes. Bref, ce ne sont que des nuances. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, l'impression de beau temps prévaudra, car c'est un temps estival qui nous est réservé, avec cette évaporation accumulée, comme je le disais tout à l'heure, dans le sol depuis un mois, avec ses pluies, et maintenant ça s'évapore un petit peu, et donc ça voile légèrement le ciel. Demain, ce sera beaucoup moins agréable, parce qu'il y aura encore un petit peu plus de voile et même des orages, mais dans l'ensemble, c'est le beau temps qui s'installe, et c'est l'été qui s'installe. Température maximale 19 à Lille, 20 degrés à Brest, 22 à Paris cet après-midi, 23 à Marseille, 25 à Lyon, 26 à Niort, 28 à Avignon et 29 dans les Landes.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer.